Avant de découvrir un peu le texte biblique que je vais vous inviter à méditer ce matin, eh bien, je vous invite à un temps de prière. Et merci beaucoup Bernard d'avoir introduit ce culte par le verset 8 ou 9 du psaume 24. Cherchez la face de l'Éternel. C'est le propos de cette prière que je vous invite à partager avant d'entrer dans la lecture biblique. Oui Seigneur, nous voici tournés vers toi ce matin et ce sont les chemins de ta vérité que nous cherchons. Ce sont des chemins de vie que tu as ouverts pour chacun de nous. Nous cherchons ensemble dans une quête qui fait la joie et le sens de nos existences. Si nous cherchons, nous te cherchons ensemble, parfois sur des chemins qui ne mènent nulle part et nous reconnaissons que nous pouvons parfois aussi nous tromper sur ce chemin-là, mais sans cesse, par ta fidélité, tu nous accompagnes et tu te rends présent. Alors nous cherchons encore ensemble, dans la vérité, ton royaume, ton visage, ta terre promise. Oui, Seigneur éternel, notre Dieu, il est bon aujourd'hui d'être ensemble et de te chercher. On a l'habitude de dire et de comprendre et de reconnaître que à travers les textes bibliques, c'est Dieu qui nous parle. Dieu parle à l'homme, à la femme, à l'enfant de ce jour, de ce monde. Des premiers mots de la Genèse aux derniers mots de l'Apocalypse, Dieu nous adresse sa parole. Par sa parole, Dieu crée, Dieu ordonne le monde, Dieu agence le monde, Dieu conduit son peuple par la parole. Dieu le libère des forces de l'esclavage. Dieu l'envoie à parcourir cette création. Dieu le relève. Dieu pardonne l'homme, la femme de ce jour par sa parole. Pour adresser sa parole aux hommes, Dieu passe par ses prophètes dans l'Ancien Testament. Et ce matin, c'est un pasteur de l'Église réformée qui va vous parler des prophètes. Oracle de l'Éternel, on le lit de façon très régulière dans les prophéties. Ainsi parle le Seigneur. C'est bien par la voix des prophètes que l'Éternel fait retentir sa voix aux oreilles du peuple et à nos oreilles aujourd'hui. Il arrive que Dieu reste silencieux, que sa parole, eh ben, on la cherche, on la guette, on la scrute, on la désespère parfois. Le silence de Dieu, en nos propres vies parfois, se fait difficile et douloureux. Ce n'est pas propre à nos jours. Hein. Déjà, dans les textes bibliques, certains ont pleuré l'absence apparente de Dieu, son silence, le fait qu'il se tienne en retrait. Je pense à Job, notamment. Job qui ne cessait de demander à l'Éternel pourquoi est-ce qu'il... Voilà, quel est donc le sens de ce qui lui arrive ? Et de traquer une réponse de Dieu pour comprendre la situation dans laquelle il se trouve, le grand malheur dans lequel il est plongé. Nous pouvons, en nos vies, et nous avons chacun nos parcours de vie différents, nous demander pourquoi ? Pourquoi le monde va si mal ? Pourquoi observer notre société, c'est bien souvent... la méchanceté qui triomphe de la justice. Pourquoi est-ce que Dieu laisse faire l'impie sans intervenir ? Ah, et puis il fait tomber la pluie sur les méchants comme sur les justes, hein, d'ailleurs. Pourquoi c'est le droit et la justice qui ont tant de mal à s'imposer malgré cette pluie qui tombe ? Pourquoi Dieu garde le silence devant tant d'injustices ? Pourquoi ? Ça, c'est, concerne le monde, la société. Ce qu'on peut observer autour de nous. Mais pourquoi ce qui m'arrive là, ça m'arrive là maintenant, aujourd'hui ? Quel est le sens de tout cela ? Où Dieu laisse-t-il son empreinte dans ce qui m'arrive ? J'ai parlé de Job, mais il y a un prophète dans l'Ancien Testament qui a posé cette question du pourquoi. Pourquoi cela arrive-t-il à notre monde ? Alors là, je vais passer par l'interface du... Ben voilà, ça passe tout seul, ça part tout seul. J'ai besoin d'allumer mon petit télécommande ou c'est parti ? Ouais, ça va marcher tout seul. Voyez, Habacuc, avez-vous déjà jeté les yeux sur le livre du prophète Habacuc ? Ouais. C'est un texte extrêmement riche. Et ouh, je vais trop vite. Hop là. Très riche et très lourd de sens. Avant nous, Habacuc s'est posé la question du pourquoi du silence de Dieu. Et c'est ce texte, les deux premiers chapitres, que je vais vous inviter à parcourir ce matin ensemble. Quelques mots sur Habacuc, tout d'abord. Habacuc, ça va aller très vite pour exprimer son curriculum vitae, parce qu'Habacuc, on n'en sait rien. On n'en connaît rien. On n'a aucune trace ailleurs dans la Bible de qui peut être ce prophète Habacuc. Et voyez donc le premier verset du livre d'Habacuc, qui comporte trois chapitres. Premier verset du chapitre 1, message du prophète Habacuc, ce qu'il a vu. Voici tout ce que nous connaissons du prophète Habacuc. Alors Habacuc, si on trouve ce nom ailleurs, mais dans le Nouveau Testament, Paul va le citer à plusieurs reprises, dans l'Épître aux Hébreux également. Et puis le mot Habacoucou en hébreu, on va le retrouver ailleurs une fois, dans le livre de Daniel, où Daniel à un moment donné mange des légumes, et ça fait partie d'un des légumes qui est donné à manger à Daniel et ses compagnons. Habacuc, c'est donc un nom de prophète qui est un nom de végétal potager, quoi. Comme s'il s'appelait, je ne sais pas, épinard ou salsifis ou Olivier, tenez, un prénom végétal qui existe, Olivier. Habacuc, on n'en sait pas plus et ça ne veut rien dire de très spirituel, en tout cas. C'est étrange parce que dans les autres livres d'autres prophètes dans l'Ancien Testament, on en sait beaucoup plus sur les prophètes. Je pense notamment à Jérémie. Écoutez le tout début du livre de la prophétie de Jérémie. Parole de Jérémie, fils de Hilkia, l'un des sacrificateurs d'Anatote dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem put emmener en captivité au 5e mois. On a tout là. On a tout pour situer précisément le prophète Jérémie. Sur Habacuc, on ne sait rien. On connaît à peine son nom, on sait à peine son contexte de naissance. L'époque où il a pu exercer son ministère de prophète, on n'en sait rien. On ne connaît pas le règne sous lequel il a assuré ses prophéties. Sa descendance et son ascendance, on n'en sait rien. On ne sait qu'une chose, c'est qu'il est porteur d'un message, qu'il a vu et qu'il est prophète et qu'il s'appelle Habacuc. Message du prophète Habacuc, ce qu'il a vu. Je vais aller voir dans d'autres traductions bibliques et voyez ce qu'on peut y lire. Deuxième traduction possible. Voici le message que Dieu a fait connaître au prophète Habacuc dans une vision. Donc, vous voyez, il y a la notion d'un message porté, d'une vision dont Habacuc est au bénéfice, le nom d'Habacuc et sa fonction de prophète. Sentence, ce qu'Habacuc, le prophète, a vu. Quatre éléments clairement énoncé. Message que Dieu a révélé au prophète Habacuc. Voici la menace. Ah, menace, c'est étrange comme traduction. Voici la menace dont le prophète Habacuc a eu la vision. La proclamation dont fut chargé le prophète Habacuc dans une vision. Oracle révélé à Habacuc, le prophète. Charge qu'a contemplé Habacuc l'inspiré. Message, sentence, menace, proclamation, oracle. Voyez que le terme hébreu utilisé pour traduire, qui qualifie ce dont Habacuc est chargé, n'est pas qu'une simple parole de Dieu. Une notion de sentence, de proclamation, d'oracle et de menace. C'est pas rien. C'est pas rien. Habacuc, on n'en sait pas grand-chose, et c'est peut-être ce qui rendra ce prophète facilement accessible, c'est qu'on peut facilement l'identifier à ce que nous vivons, nous. Autant il est déconnecté de l'histoire du peuple d'Israël, autant on peut le lire de façon très proche de nous. Et c'est en tout cas ce que je comprends dans le fait que d'Habacuc, on ne sache pas grand-chose. Comme on n'en sait pas grand-chose, eh bien, on peut l'apprivoiser, d'autant plus facilement. Il ne nous est pas un étranger, il n'est pas reclus dans une époque du passé. Il peut être très très proche de nous. Et pour cause, ça vous intéresse de savoir le message, la proclamation, l'oracle que le prophète a eu à énoncer, lui qui a vu Habacuc le visionnaire. On va lire tranquillement le début du livre d'Habacuc, le début de sa prophétie. Versets 2 à 4. Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes? Jusqu'à quand crierai-je vers toi, violence, sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Ravages et violence sont devant moi, il y a des querelles et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée et l'équité ne s'impose jamais. Parce que le méchant assaille le juste, c'est pour cela que l'équité est pervertie avant de pouvoir s'imposer. Curieux, non ? Comme début de prophétie. On s'attendrait à entendre un oracle, une menace, une sentence de la part de l'Éternel. Une parole que Habacuc prononcerait de la part de son Dieu à son peuple. On attendrait un message délivré de la part de Dieu. Parce que Dieu parle, n'est-ce pas ? Dans la Bible, du premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse. Eh bien non, on n'a pas ça au début du livre d'Habacuc. On n'a pas une sentence prononcée de la part de l'Éternel. On a parlé de théâtre tout d'abord, tout à l'heure, on a affaire à un début de dialogue. C'est l'acteur 1, le comédien 1 qui commence à parler. Et il se trouve que c'est le prophète en son nom propre qui prend la parole. Habacuc s'adresse à l'Éternel. Avant même de prononcer l'oracle de l'Éternel, c'est le prophète qui va s'adresser à l'Éternel. Et le début du livre d'Habacuc sera sur ce mode-là, dans un dialogue entre « je » et « tu ». Non pas « je », l'Éternel, « tu », le peuple, mais « je », le prophète, à toi, l'Éternel. Et c'est Habacuc qui en est à l'initiative. C'est pas Dieu qui sera à l'initiative de sa parole. C'est le prophète qui va interpeller l'Éternel. Et sous quel ton, voyez donc ? Habituellement, dans les livres prophétiques, on constate bien souvent que l'homme est sourd aux injonctions de l'Éternel, que l'homme n'est pas capable d'entendre la volonté de Dieu pour son peuple, et que Dieu, parfois, est obligé d'en mettre une couche pour bien faire comprendre sa volonté. Regardez qu'ici, c'est l'inverse. C'est pas l'homme qui est sourd, c'est Dieu qui semble ne pas entendre l'injonction du prophète. C'est Dieu qui n'écoute pas. Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes ? Jusqu'à quand crierai-je vers toi violence sans que tu sauves ? Silence de la part de Dieu, qui est dû à une surdité de sa part et une non-action. Dieu n'intervient pas dans l'histoire de son peuple tel que le prophète le souhaiterait. Je vous laisse relire le constat d'Habacuc, la façon dont il comprend son temps et ce qui l'entoure. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression ? Ravages et violences sont devant moi. Il y a des querelles et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée. L'équité ne s'impose jamais, parce que le méchant assaille le juste, et pour cela que l'équité est pervertie avant de pouvoir s'imposer. Elles ne vous paraissent pas étrangement actuelles, ces paroles, ce constat sur la société dans laquelle Habacuc vit, ravages, violences, querelles, disputes, lois paralysées. Je vous laisse cela à votre méditation. Habacuc décrit son temps. Il décrit une situation qui le questionne. Et le constat, il est lucide. Et pour ce constat, il appelle l'intervention de son Dieu. Seigneur, voici le monde dans lequel je vis. Pourquoi tu n'interviens pas ? Pourquoi Alors que j'appelle et que je fais monter vers toi ma voix, tu ne prêtes pas oreille à tout cela et tu n'interviens pas. Pourquoi donc ? Eh bien, peut-être pour apaiser la violence, peut-être pour délivrer de l'oppression, peut-être pour réconcilier des querelles et des disputes, peut-être pour réinstituer la loi, peut-être pour instaurer l'équité, peut-être tout simplement, enfin, je m'écoute, tout simplement, profondément, pour pacifier la société. Seigneur, pourquoi ne permets-tu pas que la paix puisse enfin revêtir le monde dans lequel je vis ? Je ne vous cache pas que c'est ma prière, bien souvent. Pourquoi tant de tiraillements ? Pourquoi tant de dissensions ? Pourquoi tant de surdité mutuelle dans ce monde dans lequel nous vivons ? Vous voulez savoir la réponse de l'Éternel ? Parce que j'ai dit, c'est un dialogue. Donc, si Habacuc questionne l'Éternel, pourquoi tu réponds pas ? Je vais spoiler la suite, hein, mais vous avez peut-être vos Bibles ouvertes. Dieu va répondre. Vous la voulez, la réponse de l'Éternel ? Voici la réponse de l'Éternel. Voyez, regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car une œuvre est en train de s'accomplir, vous ne croiriez pas si on la racontait. Ah, ça aiguise notre attention, alors on se dit, ah, enfin l'Éternel va intervenir et accéder à la demande d'Habacuc et permettre que ce que demande Habacuc puisse se vivre pleinement. Voici la suite. Je suscite les Chaldéens. Je, c'est l'Éternel. Hein. Je suscite les Chaldéens, ce peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes pays pour prendre possession de demeures qui ne lui appartiennent pas. Il est terrible et redoutable. Il impose lui-même son droit et sa suprématie. Ses chevaux sont plus rapides que des léopards, plus mordants que les loups du soir. Ses chars se déploient, ses chars viennent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout entier, il arrive pour la violence. Le visage tendu vers l'avant, il amasse des captifs comme du sable. Lui, il se moque des rois, il rit des princes, il se rit de toute forteresse. Il amoncelle de la terre et il la prend. Alors un souffle passe et s'en va. Il se met en tort, lui, dont la force est pour son Dieu. Voilà la réponse de l'Éternel à la demande d'Habacuc. Vous mesurez le léger gouffre qu'il y a entre la demande d'Habacuc et la réponse de Dieu. Habacuc demandait simplement une société apaisée, tranquillisée, réconciliée, où le droit et la justice puissent régner. Il demande simplement que l'injustice puisse trouver résolution. Voilà la réponse de l'Éternel, la dévastation. Je suscite des Chaldéens. Les Chaldéens étaient l'ennemi de l'époque. On établit ce texte à peu près à l'an moins 600. Voilà, à peu de choses près. Si on a un élément qui nous permet de dater cette prophétie, c'est cette notion, cette référence aux Chaldéens, qui étaient les successeurs des Babyloniens. Je suscite, moi l'Éternel, je suscite les Chaldéens, votre pire ennemi, ça vient de moi, pour dévaster la société. Comme si le remède était pire que le mal. Cela nous pose la question quand même, hein, de celui qui conduit l'histoire. Celui qui conduit l'histoire et puis de la façon dont nos prières sont ajustées à cette histoire par laquelle nous sommes conduits par plus grand. C'est ma conviction, l'histoire des hommes est entre les mains de notre Dieu. Mais nos prières, ce que nous voudrions, nous, pour notre monde, pour notre ville, pour notre famille, pour notre vie personnelle, à quel moment est-ce que ce que nous souhaitons, nous, est vraiment ajusté avec ce que l'Éternel a en réserve dans son action ? Nos prières suffisent-elles à infléchir le cours de l'histoire ? Je suscite les Chaldéens, dit l'Éternel. Comment donc expliquer ce gouffre entre nos attentes, nos espérances, et ce qui va se réaliser à travers l'intervention de Dieu dans l'histoire du monde, dans l'histoire des peuples, dans l'histoire des hommes ? On aimerait tant que simplement l'Éternel apporte la paix à notre société. Il suscite les Chaldéens. Habacuc va reprendre la parole juste après, à partir du verset 12. Habacuc dit, « Mais toi, n'es-tu pas dès le temps jadis, Seigneur, mon Dieu, mon Saint ? Tu ne meurs pas. Seigneur, tu l'as établi pour le jugement. Mon rocher, tu l'as institué pour châtier. Tes yeux sont trop purs pour voir ce qui est mauvais. Tu ne peux pas regarder l'oppression. Pourquoi donc regardes-tu les traîtres ? Pourquoi gardes-tu le silence quand un méchant engloutit plus juste que lui ?» La question d'Habacuc ne change pas. Pourquoi c'est la justice qui doit rester écrasée sous l'injustice ? Tu traites les humains comme les poissons de la mer, comme les bestioles qui n'ont pas de maître. Tous, il les enlève à l'hameçon, il les tire dans son filet, il les recueille dans sa nasse. Alors il se réjouit, il est dans l'allégresse. Alors il offre un sacrifice à son filet, de l'encens à sa nasse, car par eux, sa part est grasse, sa nourriture copieuse. Alors va-t-il vider son filet et massacrer des nations constamment, sans épargner personne ? C'est là la deuxième prière d'Habacuc. Prière adressée à son Dieu, son Saint, mon Dieu, mon Saint. On voit là l'affection profonde qui lie le prophète à Dieu et un lien qui lui permet de trouver les circonstances atténuantes finalement. Ah mais Seigneur, voilà ce qui nous arrive. Tu ne réponds pas à ma prière, en tout cas tu y réponds de façon bien trop disproportionnée par rapport à ce que je demandais. Mais peut-être que c'est parce que tes yeux sont trop purs. C'est extraordinaire, cette expression-là. Tes yeux sont trop purs. C'est juste avant, hein, on peut le voir. Tes yeux sont trop purs pour voir ce qui est mauvais. Tu ne peux pas regarder l'oppression. Quand même incroyable que ce soit au prophète Habacuc de trouver des circonstances atténuantes à la non-intervention de Dieu dans l'histoire des mondes. C'est à Habacuc de lui faire dire ce qu'il aimerait entendre et de le faire agir comme il conviendrait. Et c'est peut-être notre tentation humaine, ça, de faire comprendre à Dieu ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire, comment il doit agir, et puis peut-être de lui trouver des circonstances atténuantes quand il n'agit pas et quand il n'entend pas nos prières. C'est probablement parce que tes yeux sont trop purs pour voir ce qui est mauvais. Habacuc va continuer sa prière. Je vais me placer à mon poste de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répondrai au sujet de mes doléances. Hein ? On sent là un léger infléchissement dans sa prière. Peut-être qu'enfin Habacuc comprend ce à quoi il est appelé. Peut-être comprend-il enfin, voilà, la place qui est la sienne, qui doit être la sienne. Et là, il déploie peut-être sa mission de prophète en quatre points. C'est comme si sur sa fiche de poste, il avait les quatre éléments à garder. Se placer à son poste de garde, rester debout, simplement rester debout, guetter et être capable de répondre. Être capable de répondre, en d'autres termes, c'est être responsable. Être responsable de l'endroit où lui-même a été placé. Voici peut-être ce qu'Habacuc doit assumer dans son histoire, dans cette histoire. Être un prophète, non pas pour demander des comptes à l'Éternel, non pas pour lui faire dire ce qu'il doit dire ou lui faire faire ce qu'il doit faire, mais simplement se tenir à son poste, debout, avec l'esprit éveillé, d'être un guetteur, et un guetteur responsable, capable de répondre. Être un prophète comme un veilleur finalement, être capable simplement au milieu du remous, que ce soit l'injustice qui règne dans la société ou alors la dévastation de l'ennemi envahisseur qui bouleverse l'ordre de choses, simplement rester un veilleur debout. Non pas pour affronter les Chaldéens, non pas pour prendre les armes pour bouter l'envahisseur, non pas pour régler tous les problèmes de la société, non pas pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ou dire, mais simplement pour rester ouvert, disponible, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, le cœur disponible à ce qui doit arriver. Et c'est peut-être ce que l'Éternel parvient à faire comprendre à Habacuc, le visionnaire. Vous vous souvenez, le premier verset, hein, prophète d'Habacuc, le prophète de ce qu'il a vu. voici ce qu'il est appelé à assumer, simplement sa capacité à voir ce qui doit arriver de loin. Voici la suite. Alors oui, c'est un petit passage par Ézéchiel. Ézéchiel aussi a décrit le Fils de l'homme comme un veilleur, comme un guetteur. Ézéchiel 33, verset 7. « Toi, humain, toi, fils d'homme, je te nomme guetteur pour la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Simplement, cette fonction de veille, du guetteur. Je me souviens, il y a quelques semaines, avec Delphine, nous animions la catéchèse à Cholet et nous avons, avec les adolescents, des collégiens, des lycéens, abordé et lu ensemble ce texte d'Ézéchiel, hein, où Ézéchiel est appelé à être guetteur sur le rempart. Avec leur situation scolaire, vous savez, beaucoup de situations de harcèlement, de maltraitance au niveau scolaire, qui est un milieu parfois assez difficile, assez violent. À quoi êtes-vous appelés, vous, les jeunes? Est-ce que vous êtes appelés à prendre les armes pour chasser celui qui porte préjudice à votre copain, voilà, ou simplement être guetteur? Est-ce qu'on peut être guetteur et gardien en même temps? Et non, on est soit guetteur, soit gardien. Soit on a les armes, soit on a les yeux. Mais on ne peut pas avoir les armes et les yeux. C'est le guetteur qui a les yeux qui doit prévenir le bras armé pour que la situation soit résolue. Alors il n'y a pas d'armes dans les collèges, dans les lycées, en tout cas, j'espère pas. Mais en tout cas, voilà, c'est à l'élève, le copain, le camarade, d'avoir les yeux suffisamment ouverts pour discerner les situations à rapporter à l'adulte qui lui est garant de l'ordre et du bon fonctionnement de la vie au niveau de l'établissement scolaire. Voilà, le collégien, le lycéen, et peut-être toi ici, en tant que fils d'homme ou fille d'homme, tu es d'abord appelé à être guetteur, à avoir les yeux ouverts. Le Seigneur me répondit, donc c'est la suite du livre d'Habacuc. Écris la vision. Ah, enfin la vision va pouvoir se laisser discerner. Grave-la sur les tablettes, parce qu'on cherchait encore à savoir ce que ça pouvait être, afin qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle aspire à son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle se réalisera bel et bien, elle ne sera pas différée. Au milieu des remous du monde, cette vision, voilà, est présente déjà, mais attends-la avec patience. Fais œuvre de patience et de persévérance. Son cœur se gonfle, il n'est pas droit. De qui parle-t-il là? Ben, du prophète. Le juste vivra en tenant ferme. Tenir ferme. On revient là à la mission du prophète veilleur. Se tenir à son poste, rester debout, guetter, être capable de répondre. Le juste vivra en tenant ferme. Voilà le cœur de la sentence. Voilà le cœur de la proclamation confiée à Habacuc. Et il est même au centre hein, du livre du prophète Habacuc, ce petit verset. Le juste vivra en tenant ferme. C'est sur ces quelques mots que je vais vous inviter à nous attarder à présent. Les rabbins et le Talmud, je crois, considèrent que ce verset, c'est Habacuc 2, verset 4, est en quelque sorte une loi, mais aussi une promesse, hein, le juste vivra en tenant ferme, qui condense toute la loi de Dieu pour son peuple. C'est l'ensemble de la loi juive qui serait là, concentrée dans ce petit verset, le juste vivra en tenant ferme. C'est comme, vous avez les bouillons cubes, hein, très très concentrés, qu'on permet de faire une belle soupe de plusieurs litres. Et bien là, on a un petit verset qui permet d'avoir toute la volonté de Dieu pour son peuple. Le juste vivra en tenant ferme. Et Paul, l'apôtre, eh bien, l'a bien mesuré parce qu'il l'a fait paraître dans deux de ses épîtres, hein, aux Romains et aux Galates. Et puis dans l'épître aux Hébreux également, on retrouve ce verset-là. Le juste vivra en tenant ferme. Et je ne vous cacherai pas qu'un certain moine allemand du XVIe siècle, qui s'appelait Martin Luther, s'est appuyé sur ce verset-là pour retrouver tout le sens du salut par la foi seule. La foi seule. C'est curieux, le mot foi n'apparaît pas dans le verset-là. Le juste vivra en tenant ferme. Et le mot foi n'apparaît pas, et pourtant, il y a plusieurs façons de traduire ce verset. Le juste vit par sa fidélité. C'est une autre façon de traduire le fait de tenir ferme, c'est la fidélité. Et vous voyez qu'entre la fidélité et la foi, il n'y a qu'un pas. Parce qu'en latin, comment est-ce qu'on dit foi? Vous savez peut-être. Fides. Fides. La fidélité et la foi, c'est du même ordre. Être capable de foi, c'est être capable de fidélité, donc une relation de confiance avec son Dieu. Celui qui est fidèle à Dieu est juste, et ainsi il a la vie. Voilà une autre façon de comprendre ce verset. Le juste vivra par sa foi. Voyez ? Ah, pardon, je vais trop vite. Hop ! Le juste vivra par sa foi. Vous trouvez ça pas ça bizarre ? Le juste vivra en tenant ferme et le juste vivra par sa foi. Le fait de tenir ferme, c'est quand même très, très concret, non ? Hein ? Très presque mécanique. La foi, on se dit, c'est quelque chose qui nous habite. Voilà, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Il y a quelque chose de l'ordre du vivant, du léger dans la foi. Et alors que la première façon de traduire établit presque un socle dur sur lequel construire. Et bien cela s'explique par une chose. Voilà, il y a une raison qui explique ce passage de la foi au fait de tenir ferme. Il faut passer par l'hébreu pour ça. La foi, en hébreu, on l'appelle émouna. Et émouna, c'est justement ce qui est fiable, ce qui tient bon, ce qui est stable, ce qui est ferme. Émouna, ça a donné la foi et la fidélité, hein, qui est quelque chose de l'ordre de la stabilité. Ce n'est pas de l'ordre de l'élan et de l'exaltation, c'est de l'ordre du sol bien ferme sur lequel construire sa vie. Il y a un autre mot en hébreu qui est issu de émouna, c'est le mot vérité. Vérité, on dit émet. Émouna, émet, c'est la vérité. Vous voyez, la vérité, c'est ce qui tient bon. Il y a un troisième mot hébreu qui existe, qui est tiré de émouna, et celui-là, vous le connaissez. Amen, exactement. Amen, c'est ce qui nous permet, voilà, d'asseoir notre prière, d'attester qu'elle est vraie, qu'elle est fidèle, qu'elle est établie sur un sol sûr et qui permet de vivre debout devant Dieu. Le Amen, le Emouna, la foi, c'est un rocher sur lequel le veilleur prophète, hein, peut se tenir au-delà des soubresauts du monde. Tiens-toi sur ce rocher, hein, sur ce rocher solide, et attends, cela arrivera. Notre justice, notre capacité, voilà, notre justice, le juste vivra par la foi, le juste vivra en tenant ferme sur ce rocher-là, c'est notre capacité d'abord à nous tenir affermis sur le rocher de notre salut, comme un sage sur le roc. Vous connaissez cette parabole extraordinaire dans les évangiles, hein, où le sage est invité à construire sa maison, non pas sur le sable, mais sur le roc. Et on a là à nouveau cette image de la fermeté du sol, cette foi par laquelle on construit toute vie. Et par ailleurs, là où Dieu nous a placés, voilà ce qui nous permet de dire que le juste vivra par le sol qui le porte. Il y a un autre petit verset, mais chez Ésaïe cette fois-ci, qui m'a intéressé et qui permet de suivre plus loin. Ésaïe 7, verset 9. « Si vous n'avez pas la foi, vous ne tiendrez pas. » Et vous voyez qu'il y a là à nouveau cette notion de stabilité et d'assurance, de lien fort qui permet de tenir. Si vous n'avez pas la foi, vous ne tiendrez pas. On peut le traduire aussi ainsi. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Si vous ne mettez pas toute votre confiance dans le Seigneur, vous ne pourrez pas tenir. Le fait de tenir et de vivre par la foi est du même ordre. Vous ne tiendrez ferme qu'en vous tenant au Seigneur. Vous voyez, le français, parfois, essaye de jouer avec ce jeu de mots. Tenir ferme et tenir au Seigneur. Vous ne pourrez tenir bon qu'en vous tenant au Seigneur. Si vous n'êtes pas ferme dans votre confiance, vous ne serez pas affermi dans votre défense. Si vous ne tenez pas à moi, vous ne tiendrez pas. Et enfin, vous ne pourrez tenir bon qu'en vous tenant au Seigneur. Tenir bon, tenir au Seigneur, voilà comment nous pouvons demeurer veilleur au milieu d'un monde où les questions se posent. Pourquoi le mal? Pourquoi l'injustice? Pourquoi Dieu qui est tout-puissant n'intervient pas? Est-ce qu'il se désintéresse de l'aventure humaine? Dieu ne répond pas à la question d'Habacuc. Dieu ne répond jamais dans ce passage-là. Il garde le silence, comme s'il gardait le retrait. Il laisse parler Habacuc. Mais dans le silence de Dieu, peut-être jaillir une parole qui nous apprend à attendre avec patience. Attendre simplement parce qu'assurément, cela s'accomplira en son temps. Attendre et quitter peut-être nos images un peu fausses qu'on se fait de Dieu. Hein, des images peut-être idolâtriques d'un Dieu qui interviendrait dans le monde selon notre bon plaisir ou selon notre propre visée. On est bien souvent bavard et puis on attend l'intervention de Dieu ou alors on voit Dieu comme un bouche-trou de ce qu'on ne parvient pas nous-mêmes à accomplir dans ce monde. Apprendre aussi à recevoir dans le silence un Dieu tout autre, un Dieu qui va se dire dans le silence de la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Silence et abandon. Silence au Carmel, Élie qui devant le fracas des éléments, la tempête, le feu, le tremblement de terre, eh bien, permet d'entendre que c'est dans le souffle fin et léger, hein, le souffle de fin silence, que l'Éternel se révèle à lui. Et puis, un dernier texte que je lis dans l'Évangile de Luc, au chapitre 8, mais c'est une histoire que vous connaissez assurément, à partir du verset 22, Luc 8, verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit « Passons de l'autre côté du lac » et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Ah, silence de Jésus, à moins qu'il ronfle un peu. Mais un tourbillon fondit sur le lac, les éléments se déchaînent. La barque se remplissait d'eau, ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Où est votre foi ? Ça c'est la première question et c'est Jésus qui la pose. « Où est votre foi ? Où est donc ce sol sur lequel vous avez construit votre relation à Dieu ?» Saisi de frayeur et d'étonnement, ben oui, quand le sol n'est pas stable, on a tout pour craindre. Ils se dirent les uns aux autres, deuxième question, et c'est plus Jésus qui la pose, c'est les disciples. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ? Seigneur, nous voici ce matin à l'écoute de ta parole. Nous aimerions tant que tu déchires le ciel pour asseoir ta seigneurie dans ce monde et permettre qu'enfin nous vivions en paix dans une société réconciliée. Nous constatons, nous observons, nous craignons pour nous, pour nos enfants, pour ceux que nous aimons. Et bien souvent, il apparaît que tu n'interviens pas. Apprends-nous à d'abord te faire confiance, à faire confiance en ta présence au cœur du monde, comme une graine discrètement semée, mais qui un jour ou l'autre germera, grandira, croîtra et portera du fruit. Telle est notre assurance, telle est notre confiance, telle est notre émouna, notre sol ferme et assuré sur lequel nous pouvons construire nos vies. Béni sois-tu pour ce temps de partage, de lecture ouverte, et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Amen.